Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, le podcast de l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la thématique école et société, et plus précisément la question du lien entre l'école et les valeurs de la République. Comment ces valeurs sont-elles transmises par l'école républicaine ? Cette fabrique du citoyen fonctionne-t-elle bien aujourd'hui ? Quel rôle pour la formation des enseignants dans son amélioration ? Pour en parler, nous recevons François Dubet, sociologue et professeur émérite à l'Université de Bordeaux, qui a notamment été directeur d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, et qui a consacré de nombreux travaux et ouvrages à l'école. Bonjour François Dubet.
Bonjour.
Posons d'abord les bases. De quoi parle-t-on quand on évoque l'école de la République et ses valeurs ?
Je crois qu'on évoque d'abord une histoire très singulière, qui est l'histoire de l'école française. Ce qu'on appelle l'école républicaine, l'école de Jules Ferry, pour dire les choses très grossièrement, a été créée pour fonder la République. C'est-à-dire que c'est pas une école qui a été fondée pour que les enfants apprennent à lire et à écrire, comme toutes les écoles, mais elle a été plus que ça. Elle a été faite pour que les valeurs de la République s'installent dans une société qui était très largement dominée par l'Église. Et comme l'Église était rétive à la République, pour ne pas dire hostile, il fallait fabriquer des citoyens, un peu de la même manière d'ailleurs que l'Église fabriquait des croyants. Ce qui fait que les querelles de laïcité sont très singulières chez nous, parce qu'on a cette histoire-là. Et au fond, l'école élémentaire, l'école de tous, ça a été d'abord l'école qui fabriquait des citoyens français. Elle a imposé une langue nationale, il faut s'en souvenir, je veux dire, on ne parlait pas beaucoup français en Bretagne, ici, dans le Midi, etc. Elle a fabriqué un rapport à des valeurs d'universalité, de progrès, etc., etc. Et ça s'est fait dans une tension, au fond, qui est très singulière à la France, la tension laïque. Mais la vocation de l'école, c'était de fabriquer des citoyens français attachés à la République. Et d'ailleurs, quand on imagine un village français, je suis toujours frappé par ça, quand on demande aux gens « dessinez-moi un village français », il y a d'un côté l'église, en face il y a l'école, entre les deux il y a la mairie et il y a un café. C'est-à-dire il y a l'église, l'école, le pouvoir politique et l'opinion publique. C'est ça qui caractérise cette société. Et ça a marché pour un certain nombre de raisons. La première, c'était que l'école laïque républicaine était quand même enchâssée dans une culture catholique qui lui était parfaitement transparente. Je veux dire, on sait que les institutrices très très laïques allaient quand même à la messe. On sait qu'on pouvait être très laïque et faire baptiser ses enfants. Je veux dire, il y avait une sorte de continuité culturelle entre l'école et la société telle qu'elle était. Et en même temps, l'école était loin de la société. C'était un sanctuaire. On a beaucoup de mal à l'imaginer aujourd'hui. C'était une école. Quand on rentrait dans l'école, c'était un peu comme quand on rentrait dans l'église. On n'était plus dans le monde normal, si je peux me permettre. Il y avait des disciplines, des règles, parfois des uniformes. Les sexes étaient séparés. Enfin, l'autorité du maître était presque aussi indiscutable que l'autorité du prêtre. Donc, on a cette histoire, cet imaginaire. Alors, évidemment, tout ce que je décris, c'est une image d'Épinal, mais tout ça ne marche plus, tout ça ne fonctionne plus, et cependant, on reste très attaché à la République et à la laïcité, mais évidemment, le monde social dans lequel ça s'est développé, lui, a quasiment disparu. Et puis, le dernier point, c'est que l'attachement à cette école de la République, il faut s'en souvenir, c'est que ça n'était pas du tout ce qu'on appellerait aujourd'hui une école de l'égalité des chances. Il y avait une école pour le peuple, une école pour la bourgeoisie, les petits lycées, il y avait une école pour les filles, il y avait une école pour les garçons, et seuls les enfants très 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 doués des catégories populaires, les Albert Camus, pour prendre cet exemple, pouvaient grimper, mais la plupart restaient à leur place. Donc la force culturelle de cette école a été, au fond, assez formidable, assez extraordinaire, et on en a une nostalgie qui nous écrase d'une certaine manière.
Diriez-vous que l'école transmet encore efficacement ses valeurs de la République aujourd'hui, ou est-ce que cela a changé ?
L'école en appelle toujours à l'égalité, à la tolérance, au progrès, à la raison, et pour l'essentiel, le monde scolaire y croit toujours. En revanche, ce qui a changé, c'est que la manière de transmettre ces valeurs, elle, s'est complètement transformée. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'autorité culturelle et morale de l'école n'est plus ce qu'elle était. De notre côté, la plupart des citoyens attendent de l'école plutôt l'acquisition de compétences, du tri social, qui étaient des choses relativement secondaires. Donc, j'envoie mes enfants à l'école pour qu'ils deviennent des citoyens, mais je les envoie à l'école d'abord pour qu'ils obtiennent des diplômes qui leur permettront d'obtenir un travail. Donc, en se massifiant d'une certaine manière, l'école a changé de nature. C'est un peu terrible de dire ça, mais ses valeurs n'ont pas tellement changé. Mais l'école ayant changé de nature, la manière de transmettre fait qu'aujourd'hui, on voit bien que tout est discutable, tout est critiquable, ce qui fait que tous les enseignants, très légitimement, se disent, au fond, mon autorité n'est plus acquise. L'instituteur Marcel Pagnol, au fond, il incarnait la culture, la science, la raison, l'orthographe, le participe passé, c'était pas contestable. Bon. Aujourd'hui, l'instituteur, le maître d'école, le professeur, doit fonder son autorité sur lui-même, doit démontrer qu'il est efficace, doit démontrer qu'il est sympathique. C'est plus acquis. Donc, on n'a pas un problème, à mon avis, de valeur, on a un problème de transmission. D'ailleurs, on pourrait montrer que c'est à peu près la même chose dans l'Église, que c'est à peu près la même chose dans les familles, que c'est à peu près la même chose partout. C'est-à-dire que ces formes institutionnelles de transmission ne fonctionnent plus. J'ajoute, pour mettre un dernier point un peu pessimiste sur cette vision, c'est que, évidemment, l'arrivée des réseaux, des écrans, etc., a fait que l'école n'a plus du tout le monopole de l'information. Quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, d'une certaine manière, si je voulais savoir ce qui se passait au-delà de ma famille, de ma rue et de mon quartier, j'avais le choix entre l'école, l'école ou l'école. Évidemment, aujourd'hui, n'importe quel gamin de 12 ans passe plus de temps devant son écran que devant un tableau noir. Voilà. Donc, on a un problème de modalité de transmission des valeurs de la République.
Vous parlez souvent des vainqueurs et des vaincus de l'école. Est-ce une des raisons de cette transmission affaiblie du modèle républicain ?
C'est le changement considérable, si vous voulez. Si vous prenez la vieille école républicaine qui, en France, dure jusqu'au début des années 60, au fond, vous êtes dans une école où la naissance fixe d'emblée la carrière scolaire. On sait, par exemple, qu'un fils de cadre élève très médiocre ira au lycée, qu'un fils d'ouvrier élève très bon a beaucoup moins de chances d'y aller. C'est la naissance qui fixe les filles, les garçons, la classe sociale, etc. Donc, vous êtes dans un système qui reproduit les inégalités de classe avec, évidemment, des exceptions pour les boursiers, les doués, les travailleurs, bon, etc. Mais pour l'essentiel, ça reproduit. Quand vous entrez dans une école de masse, dans une école d'égalité des chances, au fond, qui s'installe progressivement en France comme partout d'ailleurs, c'est que vous faites entrer tous les enfants dans la même école, enfin formellement dans la même école, et vous leur dites que le meilleur gagne. Et vous passez à un système qui n'est plus directement le poids de la naissance, mais dans lequel la carrière est le résultat de votre efficacité dans la compétition scolaire. C'est comme un tournoi sportif. Et à chaque étape du tournoi, vous êtes sorti. Et ça, c'est le modèle dans lequel nous sommes. Et ce modèle-là, évidemment, il va finir par créer une sorte de hiérarchie entre les vainqueurs de la compétition, qui ont fait les bonnes universités, les grandes écoles, etc., qui auront les bons diplômes, qui gagneront un peu d'argent, etc., et les vaincus, qui feront les mauvaises formations, pas de formation, qui auront moins de diplômes ou pas de diplômes, et qui finiront par être quand même moins bien payés avec des travaux plus pénibles. Cette hiérarchie-là, au fond, elle est produite par l'école. Alors, bien sûr, elle reproduit les inégalités sociales. Bien sûr, à la fin, les vainqueurs, c'est toujours les mêmes. Bien sûr, à la fin, les vaincus, c'est toujours les mêmes. Mais ils ne sont pas fabriqués comme ils étaient avant. Avant, c'était le destin. Et donc, c'est parce qu'on est dans une société capitaliste, de classe, que je n'ai pas fait d'études. Tandis qu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai raté mes études que je suis là où je suis. Même si je sais que j'avais moins de chance, etc. Ce qui fait que les premiers, les vainqueurs, entre guillemets, tout ça est très caricatural, évidemment, les vainqueurs croient pour l'essentiel aux valeurs de la République. Dans un langage anglo-saxon, ils sont libéraux. Ils sont libéraux, ils ont confiance, etc. Et puis, les vaincus, ils ont plutôt du ressentiment, un sentiment de mépris, l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas, et ils croient moins aux valeurs de la République. Parce qu'au fond, de leur point de vue, alors je suis injuste et excessif, mais de leur point de vue, au fond, l'école leur a présenté des valeurs, et ces valeurs, l'école n'a pas été fichue de les mettre en œuvre pour eux.
Vous parlez d'un changement de modèle qui ne permet plus de véhiculer de la même façon les valeurs de la République. Est-ce que cela pose également la question de la formation des enseignants ?
Dans le changement que je viens d'évoquer, il y a plusieurs choses. Il y a les problèmes de, on y reviendra peut-être, de la transmission, etc. Est-ce qu'on transmet aujourd'hui comme on transmettait il y a un siècle ? J'en suis pas sûr. Et pas seulement à l'école. de manière générale. Et puis, il y a le problème de la transformation des enseignants. Le métier d'enseignant, notamment le métier d'instituteur, était un métier défini comme une vocation. C'est-à-dire, j'entre à l'école normale d'instituteur à 16 ans, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, apprentissage d'une base pédagogique robuste, ce qui fait d'ailleurs que la pédagogie est à peu près la même partout sur tout le territoire, ce qui est incroyable quand on y pense aujourd'hui, et en même temps, identification aux valeurs de la République, un mode de vie, une sobriété, s'occuper des associations. Donc, vous aviez un modèle professionnel qui était la vocation. Le modèle du lycée, lui, était un modèle très différent, c'était le modèle du savant. On est savant, et comme on va enseigner à des élèves ultra sélectionnés, ultra triés, qui ressemblent à l'élève que j'ai été, la grande tradition pendant très longtemps dans l'enseignement secondaire français, c'est qu'on ne forme pas les profs. Durkheim lui-même, qui a enseigné dans ces murs, là où nous sommes, à Bordeaux, s'en indignait. Il disait, c'est extraordinaire, on ne forme pas les enseignants, persuadé que le fait d'être savant vous donne les compétences pour transmettre. Il est évident que quand vous créez une école de masse, ces deux modèles explosent complètement. Évidemment, vous ne pouvez plus jouer sur la vocation, l'engagement, etc. Et de l'autre côté, les savants s'adressent, d'ailleurs quand on a commencé à massifier le système scolaire, la plainte du monde secondaire sur les élèves qu'on leur envoyait des barbares, des incultes, des sauvages. Ça a toujours été le cas, hein, mais évidemment, c'est-à-dire que les élèves étant moins triés, et donc est apparu quelque chose que beaucoup de pays ont beaucoup mieux géré que nous, qui est de dire, au fond, l'enseignement est un métier, c'est une profession, et les professions, ça s'apprend. C'est-à-dire que pour devenir ingénieur, on fait des études d'ingénieur, on fait des stages dans des écoles d'ingénieurs, on n'apprend pas la physique pour être physicien, on apprend la physique pour être ingénieur, on apprend la biologie quand on fait médecine, mais pas pour devenir biologiste, mais pour devenir médecin, et l'essentiel de l'apprentissage, ça se fait à l'hôpital. Idem pour les infirmières, idem pour les travailleurs sociaux, on est dans un modèle professionnel. En France, de mon point de vue, on a désarmé les enseignants parce qu'on a maintenu une sorte de mythologie de l'ancien modèle. Vous êtes sélectionné à un niveau académique élevé, vous faites quelques stages et puis voilà. Et je pense, au fond, c'est une faute politique de ne pas avoir fait ce qu'on a fait quand on a créé des écoles d'ingénieurs en disant la France a besoin de se moderniser, créons des écoles d'ingénieurs, créons les CNRS, un truc comme ça. Là, on l'a pas fait, on hésite et d'une certaine façon, on désarme les enseignants. D'abord, les enseignants trouvent eux-mêmes qu'ils sont pas assez formés, d'une part. Et puis, d'autre part, on rend ce métier ambigu du point de vue de son attractivité. Est-ce qu'on est un savant? Est-ce qu'on est un professionnel? Les carrières sont figées par le niveau académique que l'on a, etc. Et ça, je crois qu'on peut le dire raisonnablement parce que, au fond, depuis plus de 20 ans maintenant, la réflexion sur l'école a considérablement changé à cause des comparaisons internationales. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'école, à la fin des années 80, je pensais d'ailleurs, comme tout le monde, que l'école française était la meilleure du monde. Les ministres le disaient, les syndicats le disaient. C'était vrai puisqu'on ne se comparait pas. Je vous assure que les premières enquêtes PISA, ça a été un choc. Alors, on a commencé à dire, bon, PISA, c'est américain, c'est... Bon, puis maintenant, plus personne ne conteste PISA, PIRL et tout ça. Et chaque fois, on se rend compte que, un, les élèves français n'ont pas du tout un bon niveau. Deuxièmement, que leurs niveaux sont extrêmement inégaux et bien plus inégaux que ce que supposeraient les seules inégalités sociales. Alors, quand on compare comment font d'autres pays, ils prennent autrement, mais il y a une variable qui est systématique, les enseignants apprennent un métier qui est celui d'être enseignant, c'est-à-dire qu'ils font ce choix de manière précoce, ils entrent dans une école précoce, ils apprennent leur savoir académique dans le but de les transmettre à des élèves, etc. Je crois qu'un jour, il faudra bien le faire.
Merci François Dubet.
Merci.
Merci d'avoir écouté Parole d'expert, le podcast de l'ASL qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Pour écouter les autres épisodes, je vous donne rendez-vous dans la rubrique podcast du site internet de l'Autonome de Solidarité Laïque.